à tous, bienvenue dans ce dernier module. Voilà, j'ai fait tomber la veste là. Voilà,
c'est le dernier.
Je me sens un peu mieux. Voilà, exactement. Voilà, donc toujours Jean-Sébastien Dupuis, évangéliste chez Microsoft.
Et toujours Sébastien Pertus, toujours évangéliste, toujours chez Microsoft. Et toujours @ Sébastien Pertus.
Et toujours @ DupuisJS. Surtout si vous avez des questions, des suggestions sur ces différents modules, bah, n'hésitez pas eh bien,
à nous interpeller.
Nous interpeller et à nous contacter sur Twitter. Alors, on va parler donc du Windows Dev Center et également du store de manière générale. On va regarder ça un petit peu plus en détail et voir les nouveautés. Alors déjà, la première information à vous communiquer, c'est qu'il y a eu pas mal de changements fondamentaux vraiment au niveau du store. Avant, c'était un petit peu éparpillé, c'est-à-dire que vous aviez les applications d'un côté, la musique de l'autre, et ainsi de suite. Aujourd'hui, ils ont unifié le socle, c'est-à-dire que le catalogue, aujourd'hui, est centralisé. Alors, c'est un catalogue, maintenant, qui a à peu près 650 000 applications et des brouettes. Voilà, ça change un peu tout le temps, c'est un peu compliqué. On a à peu près, on a plusieurs millions de titres en termes de musique. Donc, ça alimente principalement Xbox Music, renommée Groove. Et également les applications films et télévision. Aujourd'hui, on a à peu près 400 000 films sur ce catalogue unifié. On a également, bien entendu, des jeux. Alors, on a un catalogue unifié, mais on a plusieurs vitrines. La première vitrine, ça va être l'application Store qu'on va retrouver sur Windows et Windows Mobile. Mais on a également des vitrines qui sont Microsoft.com, qui va montrer également les applications sur le site web. Et puis Cortana va également aller piocher éventuellement pour suggérer des applications en fonction de l'usage que l'utilisateur peut avoir de ces applications sur son poste de travail. Eh bien, Cortana peut être amené à montrer, à suggérer des applications à l'utilisateur. Alors, ça, c'est l'application qui aujourd'hui est disponible sur Windows 10 Desktop et Windows 10 Mobile. La bonne nouvelle, c'est que eh bien, de plus en plus, c'est plutôt un bon signe, la plupart des applications qui sont faites pour Windows 10 sont également des applications universelles. Et donc, c'est tout ce qu'on vous a dit jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que c'est une application responsive avec le même package qui est disponible sur Windows 10 Desktop et sur Windows 10 Mobile. Alors, dans les changements qui sont liés au Windows Dev Center, c'était déjà pratique depuis quelques temps, on est capable de faire une inscription unifiée, c'est-à-dire qu'on n'a plus deux stores séparés, puisqu'on avait ça historiquement. On avait un store, on avait un Dev Center pour la partie phone, pour la partie mobile, et un Dev Center pour Windows. Donc il fallait soumettre deux packages à deux endroits séparés. Aujourd'hui, le process est beaucoup plus fluide et transparent. Non seulement l'inscription est unique, c'est à un seul point, on n'a qu'un seul tableau de bord, et on va soumettre nos packages au même endroit pour Windows 10 et Windows 10 mobile. Donc quand même pratique. Et ensuite, on a également fait pas mal de progrès sur l'acquisition, l'engagement des utilisateurs. On verra ça plus en détail. Sur la monétisation, également sur la télémétrie, on a pas mal de rapports d'analyse qui viennent un petit peu enrichir l'expérience du tableau de bord aujourd'hui. Et puis, puisque les deux Dev Center sont unifiés, vous avez également une procédure de paiement, c'est-à-dire que quand vous allez gagner des gains avec votre application et vos applications, et bien forcément, ces gains sont mutualisés et centralisés au même endroit, donc plutôt pratique. Alors, je vous ai parlé d'une inscription unique et d'un Dev Center unique. Il faut savoir également que ce Dev Center, aujourd'hui, il embarque avec lui historiquement ce qu'on appelait Pub Center, c'est-à-dire toute la partie advertising. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin d'aller sur Pub Center. Cette notion est intégrée nativement dans le tableau de bord, ce qui est plutôt pratique. Alors, vous serez heureux d'apprendre que l'enregistrement fiscal a été largement simplifié. On ne peut que s'en féliciter. Et il y a une fonctionnalité qui va arriver bientôt, vraiment prochainement, qui va être assez pratique. C'est le fait de pouvoir supporter sur un même Dev Center plusieurs utilisateurs et plusieurs types de rôles. Donc, par exemple, pour les entreprises qui veulent déléguer auprès d'un développeur, d'un ISV, des droits sur son Dev Center, on pourra le faire prochainement. Ce n'est pas encore, prêt, mais ça va arriver. Alors, en termes de certification, les politiques de certification qui étaient divergentes entre Windows et Windows 10 Mobile, aujourd'hui, elles sont également unifiées. On a à peu près la même chose qu'avant. La grande différence, c'est qu'il faut évaluer les applications en termes d'âge. C'était déjà le cas pour Windows, ce n'était pas le cas pour Windows Mobile. Vu que ça s'est unifié, maintenant, vous devez préciser l'âge requis pour chacune de vos applications. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut passer par un process externe, vous pouvez faire du déclaratif. Pour les jeux, vous pouvez effectivement aller un peu plus loin et puis le faire approuver par une société externe. Ce n'est pas obligatoire, c'est un plus. Par contre, pour certains pays, c'est obligatoire, donc regardez bien en fonction des marchés sur lesquels vous allez publier l'application, si oui ou non, il faut passer par une boîte extérieure pour évaluer l'âge requis par votre application. Mais c'est souvent du déclaratif, généralement. La procédure de certification est toujours rapide, c'est-à-dire qu'on s'est inspiré pas mal de ce qui était fait sur Windows Phone. Donc on a aujourd'hui des temps de certification qui prennent vraiment quelques heures et non plus 5 jours, comme c'était le cas pour Windows il y a quelques temps. Alors, en termes d'acquisition d'utilisateurs, premièrement, vous allez être heureux d'apprendre que, eh bien, on a rajouté un certain nombre de rapports sur l'acquisition, l'utilisation et la conversion de vos applications. Pour enrichir ces rapports aujourd'hui, principalement par exemple l'utilisation de l'application, on repose sur quelque chose qui s'appelle Application Insight, voilà, qui est une solution de télémétrie qui est proposée par Microsoft. Et le dashboard finalement qui est présent dans le Dev Center et Application Insight qui est côté Azure, eh bien, discutent l'un avec l'autre de manière à pouvoir fournir ces éléments de télémétrie en complément dans votre dashboard. Donc après, vous pouvez aller puiser un petit peu les informations que vous souhaitez, l'un ou l'autre, mais en tout cas, l'intérêt, c'est quand même d'avoir ces informations. Et moi, j'aime bien cette fonctionnalité qui était demandée par pas mal de sociétés, c'est que vous allez pouvoir, donc là, ce qu'on a à l'écran, c'est l'URL de votre application, que vous pouvez donner à quelqu'un pour directement aller sur le site web et puis aller afficher la page de votre application pour la télécharger. Pratique. Ce qui, à la fin, on a rajouté un petit query string avec un CID égal et vous pouvez passer un identifiant de campagne. Cet identifiant, c'est vous qui le définissez. Vous pouvez en avoir un pour Twitter, un pour Facebook, un pour les réseaux sociaux. Ben, voilà, chaque réseau social, vous pouvez lui en attribuer un séparément. Et ensuite, quand vous allez faire vos communications, du coup, quand vous allez rediriger l'utilisateur, si l'utilisateur télécharge l'application, eh bien vous pourrez voir dans vos rapports de conversion, donc sur le tableau de bord, vous pourrez voir effectivement d'où viennent vos utilisateurs. Voilà. Pratique. C'est assez pratique.
Tout simple, mais pratique.
C'est pas mal. Et il y a quelque chose qui est pas mal aussi, c'est que cet identifiant, il va même être conservé une fois que l'application est installée. On va savoir, du coup, on peut, depuis l'application, récupérer cet identifiant et de savoir finalement par où est passé mon utilisateur. Et donc par exemple, s'il a été redirigé depuis Twitter, on peut se douter qu'il utilise plus un peu plus Twitter que Facebook. Et par exemple, dans mon application, je vais peut-être pouvoir lui dire, eh bien, écoute, naturellement, je vais lui proposer une authentification qui va être plutôt basée sur par Twitter que par Facebook. Donc on peut adapter comme ça voilà, le comportement de l'application en fonction de la provenance de l'utilisateur. D'accord. De nouveaux scénarios. Alors également, en termes d'acquisition, on va pouvoir eh bien, proposer son application et faire de la promotion de son application. C'est-à-dire qu'on va retrouver finalement eh bien, son application sur les réseaux publicitaires Microsoft, voilà, dans les contrôles de type ad médiation. On va pouvoir faire de la publicité pour son app. Donc ça s'appelle la notion de campagne. On peut même cibler l'audience, c'est-à-dire qu'on va pouvoir dire que je préfère plutôt voilà, cibler les ménagères de moins de 50 ans ou ainsi de suite. On a cette notion en tout cas de ciblage d'audience qui est disponible pour envoyer de la pub ciblée pour son application. Donc ça, la notion de campagne, c'est quelque chose qui va être payant. Mais vous avez également une notion de house ad, c'est-à-dire le fait de faire de la publicité de son application dans une autre de ses applications. Donc ça, c'est gratuit, mais on facilite un petit peu cette notion d'auto-promotion de ses apps. Alors, une fonctionnalité qui était pas mal demandée, c'était pour, à partir du moment où vous avez des applications qui sont payantes, soit en achat directement, soit en in-app purchase, ce qu'on voulait, c'était éventuellement proposer à des gens des vouchers, des bons, pour être capable de télécharger son application gratuitement. Maintenant, c'est disponible. On va pouvoir générer des coupons à la demande sous forme de batch jusqu'à 250 par mois pour chaque application et pour chaque in-app purchase. Voilà, et c'est valable pendant 6 mois à chaque fois. Et donc après, une fois qu'on a ces coupons, on peut les distribuer sur les réseaux sociaux, soit directement sous forme de coupons directs. C'est à vous après de gérer ça. La seule chose que fait le store, c'est qu'il vous génère les coupons avec les URL qui vont bien, avec le bon identifiant pour directement que ça soit intégré. C'est assez propre. C'est dans un fichier un petit peu à la sorte Excel. Donc après, c'est à vous de mouliner tout ça pour gérer quand même. Vous avez un petit peu de travail. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vous gère les coupons pour vous. Alors attention, c'est bien précisé dans les policies de Microsoft. Ces coupons, bien entendu, vous n'avez pas le droit de les vendre. Et donc, ça ne génère aucun revenu à votre application. C'est fait vraiment pour faire de la promotion de votre app. Vous avez également une notion de discount qui est possible. C'est-à-dire que aujourd'hui, Microsoft pouvait, dans un certain nombre de cas, vous aider à proposer des baisses tarifaires pendant un temps donné. Maintenant, vous allez pouvoir eh bien, le proposer vous-même. C'est-à-dire que si vous voulez faire une campagne promotionnelle pendant un mois et puis donc baisser le prix de votre app ou de vos in-app purchases pendant cette période, eh bien, vous allez pouvoir directement depuis le dashboard proposer ce discount et baisser donc temporairement le prix. Voilà, et ça c'est vous qui le faites directement. Vous n'avez plus besoin de contacter Microsoft pour ça. Vous le gérez directement depuis le tableau de bord. Alors en termes d'engagement, vous pouvez toujours analyser la tendance, ça existait, c'est-à-dire vous pouvez regarder un petit peu les différentes revues utilisateurs. Toutes ces revues, tous ces commentaires sont automatiquement traduits pour vous, donc vous pouvez regarder à quoi ça correspond. Vous pouvez toujours répondre en privé à un commentaire pour dire potentiellement que le problème va bientôt être fixé. Ce qui est nouveau, c'est que vous pouvez même répondre de manière publique à un commentaire. C'est-à-dire que si beaucoup d'utilisateurs se plaignent d'un comportement un petit peu erratique, eh bien vous pouvez répondre de manière publique sur le store en disant que vous avez bien pris connaissance du problème et que vous êtes en train de le gérer. Voilà, donc cette notion de réponse publique est désormais disponible sur le dashboard et sur le store. Alors, un sujet qui nous intéresse tous, c'est la monétisation. Alors, on nous demande souvent des chiffres. Écoutez, je peux déjà vous donner cela. C'est intéressant de voir la répartition un petit peu des différentes manières de se rémunérer. Aujourd'hui, sur le store, on voit que 14% de la monétisation est faite sur des applications qui sont payantes. On voit après que 31% c'est de la publicité, donc c'est vraiment des revenus publicitaires. Et si vous ne le saviez pas, eh bien, l'in-app purchase rapporte assez puisque aujourd'hui 55% finalement des revenus y viennent d'achats in-app purchase à l'intérieur des applications et des jeux. Alors on essaye toujours d'améliorer nos options de paiement. Donc on accepte toujours toutes les cartes de crédit, PayPal, les cartes cadeaux, ainsi de suite. Sachez qu'on essaye de faire un petit essai sur Bitcoin actuellement aux États-Unis. Bon, on ne sait pas si ça arrivera en Europe, mais bon, pour le moment, ça le mérite d'être testé. Mais ce qui est important, c'est vraiment pour nous la partie facturation opérateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez quand même la plus grande partie des gens dans le monde n'ont pas accès ou ne souhaitent pas utiliser de carte de crédit. Alors qu'ils ont tous un opérateur mobile. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir proposer une facturation sur directement la facture de l'opérateur mobile. Et aujourd'hui, on est présent auprès de 100 opérateurs dans 57 marchés pour effectuer cette facturation directement via l'opérateur. Alors, si vous voulez savoir, pour la France, aujourd'hui, c'est couvert par Orange, SFR et Bouygues. Voilà, Free n'est pas encore dans le dispositif, mais en tout cas, les trois autres sont bien présents. Alors, on a plein de business models disponibles. On retrouve bien entendu les in-app purchases avec des consommables, des durables, donc des choses assez traditionnelles. On a également, bien entendu, des revenus publicitaires. Ce qui manque aujourd'hui et qui va arriver prochainement, c'est les abonnements, les subscriptions. C'est-à-dire que si vous souhaitez faire du renouvellement d'abonnement régulier, aujourd'hui c'est quelque chose qui n'est pas présent. Gardez à l'esprit que même si la date n'a pas encore été annoncée, ça va arriver. Et en termes de revenus publicitaires, on a amélioré notre contrôle ad médiation et notre kit de développement publicitaire de manière déjà à faire en sorte qu'il fonctionne sur Windows 10 pour UWP. Non seulement il fonctionne pour Windows 10, mais il fonctionne pour tous les types d'applications, puisque avant c'était un petit peu compliqué pour HTML et JavaScript. Maintenant, c'est plus le cas, ça fonctionne bien pour HTML et JavaScript, donc on est plutôt content. Et on supporte un nouveau support de format qui est celui vidéo. Donc on peut rajouter des interstitiels vidéo pour faire de la publicité et gagner des revenus avec ces vidéos publicitaires. On intègre également un programme d'affiliation, ça c'est tout nouveau. Alors le programme d'affiliation, ça permet depuis votre application eh bien, de rediriger sur le store pour essayer d'engendrer un achat derrière. C'est-à-dire que si vous avez une application qui fait aujourd'hui, par exemple, qui diffuse des contenus sous forme vidéo ou des contenus audio, eh bien, rien ne vous empêche de rediriger vers le store pour acheter ces musiques ou ces vidéos. Et si vous redirigez vers le store et qu'il y a bien un achat qui est effectué derrière, eh bien vous êtes commissionné, vous êtes rétribué. Alors, les commissions changent, mais on va dire que pour tout ce qui est application, jeux, musique, film, on est autour de 7%. Mais il n'y a pas que des biens de ce type-là. On peut retrouver également des abonnements à Office 365, on peut retrouver des achats de Surface Pro 3, des souris, des claviers, ainsi de suite. Donc, vous avez à chaque fois des marges qui sont différentes. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller sur akms/Microsoft Affiliates et vous pouvez regarder tout en détail cette notion de commission et cette notion de fenêtre d'attribution. Alors la fenêtre d'attribution, c'est entre le moment où l'utilisateur a été redirigé vers la page et le moment où il a fait vraiment son achat. Voilà, et ces fenêtres d'attribution peuvent aller, on va dire, de 24 heures à 6 mois en fonction des différents achats. Alors, un sujet que tu aimes bien également, c'est le Business Store.
Tout à fait.
Alors aujourd'hui, on vous en parle, on a les informations qui sont à disposition, c'est celles qu'on va vous présenter maintenant. C'est quelque chose qui est toujours un petit peu en construction, donc on ne peut pas vous faire de démo live, mais on peut quand même vous présenter un petit peu le concept. Le concept, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, Windows 10 va être assez présent quand même dans les entreprises, et eh bien, ces entreprises ont besoin également de diffuser des applications auprès de leurs employés. Alors, ça a toujours été un sujet un petit peu compliqué. On a essayé de travailler le point et de, en fonction des retours qu'on a eus, proposer une solution qui satisfasse un petit peu tout le monde, c'est-à-dire à la fois les développeurs et puis les entreprises. Et ce qu'on vous propose, c'est cette itération, c'est-à-dire un business store. Alors, l'idée, c'est de pouvoir, vous côté IT, côté entreprise, eh bien, acheter des applications qui sont présentes sur le store classique en volume. C'est-à-dire que si je veux, par exemple, une application spécifique qui est payante, je vais pouvoir acheter 100 licences et ces 100 licences, je vais pouvoir les réattribuer à mes utilisateurs. L'intérêt, c'est que si j'ai un de mes collaborateurs qui part de l'entreprise, eh bien, éventuellement, cette licence, je vais pouvoir la récupérer et l'attribuer à un autre utilisateur. Donc, ça va être ça, vraiment, la notion de licence en volume. Par défaut, quand vous soumettez votre application sur le store public, ça veut dire qu'elle va être, potentiellement, elle va pouvoir se retrouver sur un business store et être achetée en volume. Donc ça, c'est par défaut. Si vous ne souhaitez pas, il y a une case que vous pouvez cocher pour dire non, je ne veux pas que mon application soit vendue en volume. C'est votre droit, vous avez le droit de ne pas le fournir. Maintenant, c'est dommage, je trouve, de ne pas forcément être disponible dans ce marché-là, qui est un marché quand même relativement important. Alors, on va voir un petit peu pour les développeurs comment ça se passe. Pour vous en tant qu'éditeur, que développeur, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous connecter naturellement au Dev Center. Vous allez soumettre votre application et elle va être présente sur le Windows Dev Center public. Donc, je n'ai pas encore parlé du Business Store. Ensuite, elle est disponible donc sur le Consumer Store et l'IT, il peut aller piocher donc les applications qui l'intéressent directement sur ce Consumer Store pour les mettre à disposition de son Business Store. Donc Business Store, vous voyez ça un petit peu comme un inventaire privé qui va vraiment être lié à une organisation. Donc on va parler par exemple ici de Contoso. Donc je vais avoir l'organisation Contoso qui va avoir son inventaire d'applications privées. Donc je vais piocher les applications qui m'intéressent et je vais les mettre à disposition dans mon inventaire pour mes utilisateurs. Donc après, je vais pouvoir les déployer soit en les mettant à disposition et c'est mes utilisateurs qui vont aller piocher les applications qui les intéressent, soit on a aussi, bien entendu, la possibilité de raccorder ça à des plomberies existantes, par exemple, pousser et faire du push d'applications sur certains postes avec des MDM ou des choses comme ça. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un deuxième mode, c'est que si vous êtes éditeur et que cette application n'a jamais finalement n'a pas lieu d'être sur le store public, qu'elle a vraiment été faite pour cette organisation, eh bien le business store en question, on va pouvoir vous déléguer les droits dessus en tant qu'ISV pour vous donner un accès pendant un instant T et vous dire OK, je vous donne les droits dessus et vous allez pouvoir pousser votre package d'application. Donc je pousse le package d'application et cette application va se retrouver dans l'inventaire de manière un petit peu voilà, transparente également, sans être passé par le store public. Et après, eh bien, mon IT va pouvoir mettre à disposition cette application, on va dire privée, à mes utilisateurs. Alors, pour vous montrer un petit peu les captures d'écran qu'on a le droit de vous montrer pour le moment, côté Business Store, donc vous allez enrôler votre organisation, votre entreprise, on va dire un inventaire privé. On va s'authentifier dessus. Ça va vous donner à disposition eh bien, des applications que vous allez pouvoir télécharger du store public ou déléguer des droits à un ISV, on en a parlé. Donc c'est sur ce site-là que vous allez voir vraiment toutes les applications qui sont à disposition de votre organisation. Et vous allez voir également bah, le nombre de clés que vous avez achetées, le nombre qui vous reste, ainsi de suite. Côté client, eh bien, c'est directement sur l'application du store que ça va se passer. Si vous regardez bien, il y a à côté de films et séries télé, vous avez un onglet qui a été rajouté, qui est celui de l'organisation. Donc ça veut dire que là, mon poste est authentifié, je suis authentifié sur le domaine de mon entreprise. Donc il a reconnu que eh bien, j'avais un inventaire, j'avais un business store. Je retrouve cet onglet additionnel. Et si je vais dessus, eh bien, je vais pouvoir directement avoir des applications qui ont été mises à disposition par mon organisation, que je vais pouvoir télécharger un petit peu en libre service. Voilà, c'est aujourd'hui, c'est la philosophie. On fait plutôt du libre service. Maintenant, si vous avez des organisations qui souhaitent plutôt faire du push, voilà, il y aura toujours des logiciels de MDM, de gestion de parc, qui pourront le faire. Mais là, vraiment, on est plutôt en mode libre service. Voilà, c'était pour un petit état des lieux sur le Dev Center, le store et puis cette notion de business store. Voilà, qui clôture un petit peu le module sur ce développeur guide, sur ce guide du développeur pour Windows 10. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié. Et n'hésitez pas à nous solliciter et à nous contacter sur Twitter. À bientôt!
À bientôt.